permet de régner. La double maîtresse. Troisième partie. Chapitre 1. Galando, le Romain. De tous les chemins qui mènent à Rome, Nicolas de Galando avait pris pour s'y rendre le plus court et le plus naturel. Aussi y arriva-t-il sans encombre le 17 mai 1767, juste comme l'église de la Trinité du Mont sonnait midi. C'est là que chaque jour, il venait ensuite régler sa montre, car si le cadran de l'horloge de l'une des deux tours marque les heures à l'italienne, d'un coucher de soleil à l'autre, le cadran de la seconde les indique à la française par le passage du soleil au méridien, et M. de Galando tenait beaucoup à savoir exactement où en était son oisiveté, ponctuelle jusqu'au scrupule envers elle comme envers lui-même. Or cela, il distribuait son temps en longues et incertaines promenades à travers la ville, tout en cherchant d'abord plus volontiers les hauts lieux d'où il la pouvait considérer d'ensemble en son étendue. Il l'apercevait en son temps tantôt molle et vaporeuse sous un ciel fluide, tantôt nette et comme sculpturale dans l'air transparent. Les dômes, les clochers et les campaniles s'élevaient de la masse confuse des maisons. De grandes ruines fauves et décharnées y montraient comme l'ossature de la vieille Rome et y dessinaient le squelette de pierre de son antique grandeur. M. de Galando regardait, appuyé sur sa canne, la vénérable cité dont le nom lui était apparu dès l'enfance au livre qu'il lisait avec le bon abbé Hubertet. Puis, à grands pas, de ses souliers à boucles de cuivre, il enfoulait le sol illustre et chaud encore des vestiges de son passé. Ces restes, à demi enfouis ou toujours debout, avaient eu des sorts divers. Le temps leur avait trouvé des usages nouveaux. L'église s'était accommodée du temple. Les chopes s'accotaient à la base du piédestal. La croix, au centre des places, surmontait les obélisques. Les bas-reliefs, encastrés dans les murs, les consolidaient de leurs fragments sculptés. Des thermes immenses, écroulés, couvraient de leurs débris plusieurs arpents. Un cirque gigantesque livrait aux carriers la mine de ces blocs. Des colonnes, prises jusqu'au cou dans l'exhaussement du terrain, s'étaient rapetissées en bornes. La terre bouchait l'arcade des arcs de triomphe. Des quartiers entiers, jadis populeux, n'étaient plus que jardins. Les vignes couvraient le janicule. Ces verdures étaient le grand charme de Rome, avec ses eaux que les aqueducs déversaient au réservoir. Elles jaillissaient en d'innombrables fontaines. On en trouvait de toutes sortes, qui donnaient une nappe, une gerbe, un jet ou un filet. Par la conque des tritons, elles s'éclaboussaient la croupe de bronze des chevaux marins, ou, par la bouche d'un mascaron, elles remplissaient une vasque ébréchée. Il y en avait d'humbles et de pompeuses, de bruyantes qui grondaient, de mélancoliques qui pleuraient, solitaires, à l'écart et presque silencieuses. La fontaine de la place Navone s'anime d'un édifice prodigieux de statues, d'animaux et de rochers. La Pauline figure un arc de triomphe qui a pour porte la chute cristalline de trois nappes d'eau perpendiculaires. Une autre montre des tortues, mais c'est à celle de Trévis qu'il faut boire en quittant la ville. On voit dans le bassin les pièces de monnaie qui jettent au départ les voyageurs pour s'assurer du retour. M. de Galando prenait plaisir à les visiter. Il s'arrêtait devant elles et écoutait leurs murmures divers, sans que personne songeât à le troubler en cette occupation inoffensive, tant la curiosité habituelle des étrangers a rendu commune aux passants des façons qui, ailleurs, eussent pu paraître singulières ou bizarres. Du reste, Rome se prête admirablement au goût de promenade et de solitude. Rome est double. On peut, à son gré, s'y isoler de tout et s'y mêler à beaucoup de choses, y vivre au centre des affaires ou en dehors des ambitions. Tout s'y sait à la fois ou s'y ignore. On y peut fréquenter les antichambres ou les sacristies, comme on y est libre d'errer à travers les ruines et les jardins. M. de Galando usait de cette seconde liberté. Aussi connut-il peu à peu Rome en son détail et sous ses aspects différents, sordide ou monumental, capitolienne ou transtévérine, populaire ou ecclésiastique. Partout, il se sentait fort à l'aise et y prenait pied chaque jour. Déjà même, il s'y créait des habitudes. Il était dans sa nature qu'il s'en forma promptement en lui. Elles y trouvaient des points d'appui, et de même que sa montre, réglée à l'horloge de la Trinité du Mont, marquait l'heure à la française, ainsi, parmi tant de choses nouvelles, M. de Galandot vivait, si l'on peut dire, à la Galandot. Il avait remarqué dans ses promenades, sur le penchant du Janicule, dans un quartier isolé, un petit palais inhabité et fort à sa convenance, et qui portait l'écriteau. M. Dalphy, à qui il en parla, après d'habile pour parler, l'acheta à très bon compte, tout en y trouvant le sien, car il l'obtint des héritiers du défunt propriétaire pour un morceau de pain, et M. de Galandot ne se douta pas que le prix qu'il le paya à l'entremise du banquier fit empocher à l'adroit intermédiaire un de ces petits gains qu'il ne négligeait pas, quoique riche par toutes sortes d'affaires et par 40 ans de trafic fructueux. Au demeurant, ce M. Dalphy était la seule personne avec qui M. de Galandot entretint quelque commerce. C'est chez lui qu'il allait chercher l'argent nécessaire à sa dépense. Dalphy était obséquieux et bavard. Dès l'arrivée de M. de Galandot, il lui avait offert ses services, mais ce dernier ne lui dut guère que celui qu'on vient de voir. Une fois la pancarte enlevée et les clés livrées, M. de Galandot quitta promptement pour son nouveau logis l'hôtel du Mont d'Or, place d'Espagne, où il avait mis pied à terre en arrivant à Rome. Sa chaise de poste s'y trouvait encore remisée. On eut donc qu'à y atteler une paire de chevaux et à y charger les malles, et l'hôtelier laissa partir sans regret ce pensionnaire singulier qui ne parlait à personne et dont il avait tiré peu d'honneur et de profit, quoiqu'il n'eût pas ménagé le compte qu'il lui remit au départ, la mine goguenard et le bonnet à la main. M. de Galandot paya sans rien dire et sans se récrier des surcroîts dont l'hôte avait impudemment grossi la note, si bien que le maraud s'aperçut que son client n'était point avare ni regardant et que seule la modicité de ses besoins l'avait fait passer pour tel. Quoi qu'elle fût, elle ne pouvait pourtant s'accommoder de 4 murs nus, car ce fut tout ce qu'il trouva dans sa nouvelle demeure, de telle sorte qu'il dut dormir, la première nuit de son séjour, tout habillé dans la chaise de poste. C'est là que M. Dalphy le surprit, et le banquier eut grand-peine à se retenir de rire en le voyant descendre du marchepied et venir cérémonieusement à sa rencontre, l'épaule et le coude poussiéreux, la basque fripée et la perruque pleine de toiles d'araignée. M. Dalphy s'excusa de sa visite matinale sur l'empressement qu'il avait ressenti à s'enquérir si M. de Galandot se trouvait bien de sa nouvelle habitation. M. Dalphy, qui la savait parfaitement vide et jugeait que M. de Galandot serait en peine d'y remédier sur le champ, prévoyait l'occasion de se défaire avantageusement de quelques meubles de rebut qui encombraient ses greniers. Aussi promit-il en se retirant d'envoyer au plus tôt de quoi pourvoir aux premiers besoins. Il énuméra tout ce dont il pouvait disposer en meubles, vaisselle, tapisserie, linge. À mesure qu'il parlait, M. de Galandot se sentait délivré d'un grand poids que lui causait l'embarras à se procurer tant d'objets divers. Il accepta l'offre du banquier en la réduisant au nécessaire, car l'autre eût voulu joindre aux choses d'usage mains superflues, et M. de Galandot dut refuser, en même temps qu'un clavecin qu'il n'eût su où mettre, 4 tables de jeu dont il n'avait que faire. L'achat réglé, M. Dalphy crut devoir en revenir à une conversation plus désintéressée. « Vous voici tout à fait, monsieur, de notre Rome, » disait-il, « et vous ne sauriez manquer de goûter les plaisirs qu'elle offre en divertissement et en bonne compagnie. » Le banquier vanta les théâtres. « Nous y avons, monsieur, le plus beau décor et la meilleure musique du monde. Vous vous garderiez bien d'y être insensible. Un homme de votre qualité ne saurait l'être à la beauté. Mais sans doute préférez-vous le jeu. Notre pharaon est célèbre, et je ne vous dis rien de l'agrément de nos femmes. Vous avez pu certainement déjà apprécier leur mérite. Ah, monsieur, quels yeux !» Et M. Dalphy clignait le sien qu'il avait petit et louche. Au mot « femme », M. de Galandot rougit et parut ressentir quelque gêne. Il toussa à plusieurs reprises et enleva une des toiles d'araignée qui, du col de son habit, lui chatouillait l'oreille. « Ah, signor !» continuait M. Dalphy confidentiel, « je ne pourrais trop vous louer de votre prudence et de craindre les périls du sexe. Nos dames romaines sont dangereuses, et j'ai vu de brillants papillons se prendre à leur filet. Leur renommée attire les voyageurs et plus d'un étranger trébuche au piège. Ah, signor, les femmes, les femmes! Et M. Delphi fit claquer sa langue d'un air entendu. Son petit œil cligné semblait s'agrandir et il se mêlait à son mauvais français des mots italiens pour mieux exprimer sa convoitise. Puis, s'arrêta court, regarda M. de Galando, dont le malaise était visible et conclut. Mais de plus hauts soins ont sans doute mené ici votre seigneurie. M. de Galando se hâta de saisir la traverse. Il avoua fort simplement à M. Delphi que son goût pour l'Antiquité lui avait donné le désir de connaître une cité si célèbre dans l'histoire et qu'il y était venu avec le dessein d'y rechercher les vestiges de ce passé dont la pioche mettait à jour maints fragments dignes d'intérêt. L'entretien se poursuivit encore quelque temps sur ce sujet et M. de Galando remercia M. Delphi quand le banquier lui eut promis de lui indiquer promptement un terrain propre aux fouilles et aux trouvailles. Là-dessus, ils prirent congé l'un de l'autre avec beaucoup de cérémonie. M. de Galando avait trouvé pour gardienne du logis qu'il venait d'acquérir une vieille femme qui se nommait Barbara. Elle occupait une chambre basse, était borgne, noiraude et dévote. Il la prit à son service. Les soins du ménage n'interrompaient pas le chapelet continuel qu'elle marmottait tout le jour. Qu'elle balaya, lava ou cuisina, elle mêlait à ses occupations diverses l'égrènement de ses patenôtres. Son principal consistait surtout à soigner une nombreuse volaille. M. de Galando avait été accueilli par les piaulements de quelques poulets maigres. Mais bientôt, avec son assentiment, la troupe s'augmenta. Barbara acheta des deniers de son maître un beau coq à longue crête. Des sacs de graines s'empilèrent dans sa cuisine. Elle y puisait à pleine main et les volailles s'engorgeaient goulûment. La chaise de poste qu'on avait laissée dans la cour, en plein air, faute de place pour la remiser, servit de poulailler. Les poules venaient pondre sur les coussins. Les coqs se perchaient sur le timon. Les poussins grimpaient aux jantes horizontales et inclinées des roues. Et les pigeons, dont Barbara compléta bientôt la basse-cour, se posèrent en roucoulant sur le toit de la voiture, dont ils blanchirent le vernis de leur fiente crayeuse. À tout prendre, M. de Galando était fort content de sa nouvelle demeure. Barbara l'avait nettoyée de fond en comble. Le mobilier fourni par M. Delphi garnissait les pièces, mais les vastes armoires restaient vides. M. de Galando garda rangé le long du mur ses malles de voyage en tirant à mesure le nécessaire. Il s'était fait confectionner, avant de quitter Paris, une douzaine d'habits pareils à celui qu'il portait d'habitude et un nombre de perruques correspondant. Le tout tenait dans quatre grandes caisses avec le linge et les chaussures. Or, la chambre qu'il occupait, M. de Galando ne fréquentait guère que la salle où il mangeait, sur une table de bois ciré, la frugale cuisine de sa gouvernante. L'ordinaire consistait en œufs, en légumes et en fruits, auxquels s'ajoutaient parfois une volaille et un pigeon, le tout servi dans une vaisselle grossière, dont Barbara, maladroite et distraite, cassait presque chaque jour quelques pièces qu'elle regardait à ses pieds en débris, sans cesser d'égrener son interminable chapelet, composé alternativement de grains d'olive et de grosses boules de buis. Les jours d'orage, pourtant, M. de Galando devait se passer de souper, car Barbara demeurait invisible et sourde à tout appel. Réfugiée dans la cave où elle se cadenassait, elle allumait des bouts de cierge bénis que lui donnaient les sacristains de l'église voisine, auxquels elle rendait en retour quelques chapons gras ou quelques poulets tendres. Le tonnerre apaisé, elle ne reparaissait que bien après, encore hagarde et livide, et venait sécher les flasques d'eau que les fortes pluies laissaient couler dans les salles par les croisées mal jointes ou les fissures du toit. Ces averses avaient gâté en plusieurs endroits les peintures qui couvraient les plafonds et les murailles de la villa. Aux places épargnées, on distinguait encore des figures mythologiques et des arabesques du meilleur goût. Vu du dehors, le palais de M. de Galando s'élevait carré sur un haut soubassement de pierre. Par derrière, une porte basse, de plein pied avec le sol, donnait accès aux cuisines. Mais la véritable entrée était par la façade. Des colonnes soutenaient le toit à balustres. Les fenêtres ouvraient à niveau d'une terrasse ornée de vases antiques. Un escalier double y conduisait à chaque bout. Au bas de la terrasse, dans une niche de maçonnerie, se dressait une statue au-dessus d'une petite fontaine. Tout cela dans un grand délabrement. Derrière le palais s'étendait un assez vaste jardin à peu près inculte. Les pigeons de la vieille Barbara s'y perchaient sur quelques cyprès et sur de vieux buis jadis taillés, maintenant à moitié morts, dont la verdure ébréchée laissait voir à l'intérieur le bois sec qui la soutenait. Monsieur de Galando allait assez souvent s'asseoir à l'extrémité de ce jardin en attendant l'heure du souper. Il y trouvait un banc de marbre sur lequel il se reposait. Il respirait le vent de la mer qui, parfois, vers le soir, vient de son odeur saline rafraîchir et purifier l'air romain. Souvent aussi, la tête basse, il traçait sur le sol des ronds avec sa canne et, du bout, il simulait sur ses médailles terrestres, au hasard improvisé, des figures indistinctes et des exergues illisibles. Le crépuscule se faisait lentement. La lune montait et arrondissait au ciel son étincelante effigie aérienne. Il restait là jusqu'à ce que la vieille Barbara l'appela en son jargon bizarre. Alors, il se levait et revenait à pas lents. Une fois à table, il se versait un grand verre d'eau et l'avalait avec plaisir. Puis, il remplissait son assiette, le plus souvent ébréchée, car aucune vaisselle, si épaisse qu'elle fût, ne durait aux mains maladroites de Barbara. Pour le cristal, il lui coulait des doigts, comme de l'eau, si bien qu'un jour, toutes les carafes brisées l'une après l'autre, elle posa pour en tenir lieu, sur la table, une petite amphore de terre jaune. Elle en avait trouvé un assez grand nombre de tailles diverses dans un coin de la cave et s'en servait à plusieurs usages domestiques. Monsieur de Galando, le lendemain, se les étant fait montrer, en fit vider le beurre, les olives et l'huile qu'elles contenaient. Elles étaient d'une rare antiquité et d'une forme exquise. La tache des anses y figurait des têtes de bélier ou des masques rustiques. Les panses portaient des guirlandes de pampres ou des scènes bucoliques dessinées d'un trait élégant et robuste. Monsieur de Galando les fit placer au-dessus de son lit sur une longue planche. Il y serrait les écus qu'il recevait des mains de Monsieur d'Alphy et qui provenaient des revenus de ses domaines de France. Et, bien qu'il fût loin d'épuiser ce que le banquier recevait pour lui, néanmoins les amphores, une à une, s'alourdissaient d'or. Ce fut sur cette réserve superflue que M. de Galando préleva de quoi payer le terrain que M. d'Alphy, fidèle à sa promesse, lui procura. Le banquier tenait parole, d'autant mieux qu'il trouvait profit à cet achat. C'était une sorte d'enclos désert situé hors des murs à la sortie de la porte Salaria. Quelques vestiges d'un petit temple et des restes de tombeaux s'y voyaient encore. M. d'Alphy fournit en même temps une équipe d'ouvriers qui remuèrent le sol. M. de Galando s'intéressa quelque temps à ces travaux qui ne donnèrent pas grand résultat, car, outre quelques pierres couvertes d'inscriptions plus qu'à demi effacées, on n'y découvrit guère autre chose qu'une grande urne de bronze verdâtre que Nicolas envoya en présent à M. l'abbé Hubertet. Ce furent d'ailleurs les seules nouvelles qu'il donna jamais de lui à son ancien maître. L'abbé, de son côté, ne savait où adresser ses lettres. Cardinal Lamparelli, à qui l'abbé écrivit du séjour de son disciple à Rome, répondit que le gentilhomme français ne s'était jamais présenté à son audience et qu'il n'avait jamais entendu parler d'aucun seigneur du nom de Galando. D'ailleurs, la lettre du bon cardinal était assez confuse et marquait l'état d'un esprit quelque peu affaibli. Le caractère en était d'une main indistincte qui en rendait la lecture difficile et par endroits si douteuse que l'abbé Hubertet dut renoncer à en déchiffrer exactement le sens entier et se contenter des parties les plus saines.